Chapitre 18. Ils n'eurent pas le temps de préparer une intervention en règle. Pas de planification, pas de brigade spécialisée du genre BRI, pas de renfort, mais 8 flics aguerris, armés, qui avaient rempli 3 véhicules et foncé après l'appel paniqué d'Audra. Les pizzas gisaient dans leur boîte tiède, au nez de Gecko qui avait enchaîné les appels. Laetitia Chapelier était retournée s'enfermer dans son bureau, au 2e étage, avec le poids de la culpabilité de celle qui a appuyé sur le mauvais bouton. Dans la voiture, conduite par Charcot, à l'arrière, Nicolas et Robillard restaient collés au GPS de leur téléphone pour trouver le meilleur trajet possible en tenant compte de la circulation. Ils venaient de passer à Nières. Côté passager, Lucie étudiait l'adresse du lieu de rendez-vous sur Internet, à une 30aine de kilomètres de là, dans le Val d'Oise. « Le parking du Fête se situe en pleine forêt de Montmorency, le long d'une départementale au niveau d'un croisement. Vu l'endroit et l'heure, il y aura zéro circulation, on ne pourra pas planquer. J'ai repéré un sentier goudronné où on pourrait se garer à environ 300 mètres du point de rendez-vous. On pourra ensuite s'approcher à pied, à travers bois. » « On devrait y être avec une demi-heure d'avance sur eux, » répliqua Nicolas, « à condition de ne pas traîner. » Sirène hurlante, Charcot slalomait entre les fils. Quand il sortit de la nationale pour gagner la 15, la circulation se fluidifia. Une tension électrique crépitait dans l'habitacle à l'idée de ce qui allait arriver et due aussi à ce qui s'était produit dans la salle de crise. C'était eux qui avait déclenché le compte à rebours et provoqué l'affichage des messages sur les comptes des victimes. L'ange du futur savait donc à quel rythme il progressait dans leur enquête, à quelle vitesse il ramassait les cailloux blancs. Il avait prévu la suite des événements menant au déclenchement du compteur. Ce mec-là était un infernal joueur d'échecs. Même pas une demi-heure plus tard, le site manifeste-angedufutur.com avait franchi les 1500 connexions et le nombre ne cessait de croître. Charcot imaginait les internautes, jeunes, vieux, peut-être même des adolescents en pyjama, en tenue de sport ou en train de dîner, abonnés au compte de Flowiz ou à celui de Bertrand Lesage, qui se rendaient sur le site et tombaient sur cette terrifiante vidéo en direct. Des palanquées de journalistes étaient abonnés au compte de Lesage. L'information allait se propager avec la violence d'une tempête de crachats sur tous les réseaux sociaux, dans les médias. Et il n'existait aucun moyen de freiner l'hémorragie. Il aurait fallu couper l'accès au site immédiatement. Mais ça aurait été prendre le risque que l'ange du futur diffuse l'exécution sur YouTube. Pire que mieux. Ils avaient perdu le contrôle et il leur restait environ 23 heures pour sauver les prisonniers. 23 heures d'enfer pour identifier un type sans visage, caché derrière un masque de Guy Fawkes et des écrans qui pouvaient se nicher n'importe où en France et les narguer sans retenue. Mission impossible. Et Charcot savait que si tout cela tournait mal, on les tiendrait pour responsables. Il se tourna vers Lucie qui venait d'appeler la nounou.
« Comment ils vont ?»«
Un peu grincheux qu'on ne soit pas là. » Jaya gère jusqu'à demain, le chien y compris. Franck ne dit rien et fixa la route. Bon Dieu, ses fils lui manquaient, et il se demanda s'il pourrait les protéger de toute cette violence encore longtemps. La violence pervertissait ce qu'elle n'anéantissait pas, et ses gosses allaient grandir dans un monde où les bombes menaçaient d'exploser à chaque coin de rue, où des adolescents se suicidaient en direct sur Périscope et où on parlait de mettre des flics dans les écoles. Chaque nouvelle génération allait devoir supporter les maux des générations précédentes. Charcot se sentait dans la peau d'un vieux Romain qui, un matin, se réveille et ne reconnaît plus sa ville. Laetitia Chapelier avait raison. Le futur ne leur appartenait plus. Il sortit de l'autoroute à Saint-Leu-la-Forêt et prit la direction de la mairie où il avait demandé à Audra de les attendre. Il reconnut la voiture banalisée et s'arrêta. Nicolas tapa un coup sur le siège.
« On vous colle au train. »
Bélanger sortit en courant et se précipita aux côtés d'Audra qui ferma le convoi. Il posa un pistolet sur le tableau de bord. « Sors couverte la prochaine fois !» Audra glissa son arme le long de son siège. Nicolas n'en revint pas quand il vit l'état de ses mains, puis le sang partout. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»«
C'est rien, juste des ronces. »«
Juste des ronces ? On dirait qu'une débroussailleuse t'est passée dessus. » Il sortit un paquet de mouchoirs en papier et lui entendit plusieurs. Elle le remercia, se tamponna tout en conduisant d'une main.
« À quoi je dois m'attendre ?» demanda Audra. « Pour mon action. »«
Ton rodéo, tu veux dire. T'as mis ta vie en danger. T'aurais pu compromettre l'enquête. Ce qui te pend au nez, c'est un blâme et une mise à pied, ce qui, dans ta situation, se résumerait à une sortie définitive. Pas encore arrivé et déjà parti. La prise de fonction la plus courte de toute l'histoire du 36. »
Le visage de la jeune femme s'assombrit encore plus, entre douleur et résignation. Nicolas désigna du menton les feux arrière rouges, juste devant.
« Mais, même derrière ces airs bourrus, Charcot ne tirera aucune conclusion de tout ça. On a tous fait ce genre de conneries, lui le premier. T'as de la chance qu'on enquête en flag. Ce soir, j'étais avec toi chez Prost. On avait de forts soupçons pour les chiens, on est entrés chez lui tous les deux... On a trouvé l'adresse du rendez-vous. C'est ce qui sera dit au proc et écrit dans le PV. Ok ?
Ok. Merci.
Ouais. Ce n'est pas une raison pour agir de cette façon à tout bout de champ. T'étais déjà une tête brûlée dans le sud ?
Je vais là où mon intuition me guide.
L'intuition, ça ne colle pas trop avec notre job.
Bien sûr que si. Sans l'intuition ou le flair, appelle ça comme tu veux, on aurait tous été remplacés par des machines et des ordinateurs. Je fonctionne à l'intuition, c'est dans ma nature, et jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné.
Les véhicules quittaient à peine la ville que la forêt se déploya, puis sa grande main noire s'abattit sur le monde pour le broyer. 5 kilomètres de départemental, et ils y étaient. La jeune femme grimaça en enfonçant la pédale. Ses griffures risquaient de la démanger toute la nuit.
Sacrée première journée, hein ?
Pire qu'un Black Friday.
Le capitaine lui lança un regard en coin. Les ombres formées par les feux et les ondulations de l'eau sur le pare-brise glissaient sur son visage et révélaient la structure complexe avec ses pommettes si hautes, ce grain de peau lisse comme une surface de pollen. Il lui raconta leur réunion en salle de crise. Le compte à rebours de 24 heures, le nombre croissant de connexions. Elle accusa le coup, et à cette seconde précise, elle lui parut fragile et inébranlable à la fois. Pareil à ces fleurs qui jaillissent au beau milieu d'un territoire glacé et inhospitalier. Il se surprit lui-même à la dévisager, et détourna la tête. Il était 21h30 passé, quand les trois voitures bifurquèrent le long d'une route étroite, s'arrêtèrent au bord d'un chemin et coupèrent les moteurs. Extinction des feux. Charcot sortit les gilets pare-balles du coffre et les distribua. Il remarqua alors l'état de Speak qui lui relata sa mésaventure dans le jardin.
« Tu n'aurais pas dû venir. Tu restes dans la voiture. Pas d'intervention pour toi. Quand on aura tapé, je veux que tu te soignes. » Et que tu te poses. Pas besoin d'être à 50 cette nuit. Je préfère t'avoir fraîche et dispose demain à la première heure. »
Audra préféra la jouer discrète et acquiesça. L'un des flics s'empara de son canon EOS haute sensibilité avec un téléobjectif à grande ouverture afin d'obtenir des clichés lisibles même la nuit.
« On éteint les portables !» ordonna Charcot. « Possible qu'ils viennent dans les bois. » Peut-être qu'il y a une autre fosse quelque part, alors on se planque et on observe. On n'intervient qu'à mon signal. D'après Audra, Prost possède un véhicule de type utilitaire, beige, aux vitres arrière teintées. On se concentre sur ce type. Si on peut l'interpeller, on l'interpelle. Mais s'il y a le moindre risque, ou s'ils sont trop nombreux, on ne bouge pas. Et on les coincera plus tard.
Bonnet vissé sur les crânes, ils s'engagèrent derrière lui en file indienne et se laissèrent avaler par la végétation. Charcot sentit le goût de la traque sur sa langue. Dans ces moments-là, il existait. Il existait de toutes ses forces. Les 8 flics arrivèrent aux abords du parking vide d'où partaient des chemins de randonnée. Chacun trouva sa place derrière un tronc ou des buissons. À 21h50, une Mercedes vint se garer dans le renfoncement. Les phares s'éteignirent, des basses sourdaient de l'habitacle. Deux ronds de cendres rougeoyantes dansaient dans l'obscurité, ainsi que l'aube bleutée des écrans de portables. Les flics retenaient leur souffle et gardaient leur concentration. Tout pouvait vite basculer. Quelques minutes plus tard, un gros véhicule avec un large coffre vint se ranger à côté du premier. Un seul conducteur à son bord. Les trois hommes sortirent de leurs voitures respectives. Serrage de main, bribes de conversations inaudibles. Du fond de la forêt, on entendait à peine le déclic discret du canon qui mitraillait. Charcot adressa un coup d'œil à Lucie, recroquevillée, trempée et tremblotante. Elle lui indiqua d'un mouvement de tête que ça allait. Il reporta son attention sur les individus et plissa les yeux. À la lueur de leur portable, chacun comptait le paquet de fric de l'autre. Puis ils allèrent ouvrir leurs coffres respectifs. Une poignée de secondes à peine. Charcot sentit l'électricité dans l'air. Leur excitation montait d'un cran. L'un d'eux esquissa des gestes de boxeur, sautant comme un fou. À l'évidence, ils comparaient leurs chiens. Déjà, ils salivaient sur les événements à venir. Puis, ils refermèrent et continuèrent à discuter. Les membres glacés des flics commençaient à s'engourdir. Les gilets pesaient des tonnes. Les doigts se raidissaient plus encore sur le métal froid des armes. Mais quand l'utilitaire beige arriva, 10 interminables minutes plus tard, l'adrénaline donna un coup de fouet aux organismes. Emmanuel Prost en sortit. Difficile de détailler sa physionomie, mais il était le plus grand des quatre et d'une maigreur de phasme. Charcot enragea quand il vit que les hommes se remettaient à discuter et à fumer des cigarettes. Hors de question d'agir maintenant. Jusqu'à preuve du contraire, ces types n'avaient rien fait de mal. Il fallait les prendre en flag pour leur coller un délit sur le dos, ce qui justifierait une garde à vue. Soudain, deux d'entre eux montèrent à l'avant de la Mercedes. De son côté, Prost alla chercher une cage dans le coffre de la Mondeo, referma à clé et s'approcha du dernier type qui venait d'ouvrir le sien. Les couinements atroces des chiens aux cordes vocales détruites parvinrent aux oreilles des flics. Ça ressemblait à des cris lointains de vieux phoques fatigués. D'un coup, Prost bascula la cage, puis une masse sombre fila vers le coffre de la Mercedes que referma le quatrième type. La voiture commença à bondir sur ses amortisseurs. Lucie adressait des signes à Charcot pour lui dire « On fonce ». Mais le directeur d'enquête fit « Non » de la tête. Personne ne bougea. 10 secondes plus tard, la voiture démarrait sur les chapeaux de roue, basse à fond, les quatre hommes à son bord. Lucie se redressa. Hors d'elle.
On attendait quoi? Ces ordures laissent des chiens s'entretuer dans le coffre de leur voiture.
Ces salopards ont une imagination de romancier. C'est une sorte de rodéo macabre. Ils vont forcément revenir. On doit les cueillir au retour quand ils seront tous dehors. Trop dangereux de taper avec les deux dans la voiture. Peut-être qu'ils étaient armés. Qu'est-ce qu'on aurait fait s'ils nous avaient allumés? Je préfère la vie de mes hommes à celle d'un chien.
Les policiers se regroupèrent autour de lui.
On s'approche au plus près de l'endroit où était garée la Mercos. 3 hommes sur la gauche du parking, le reste à droite. On va les cerner. Vous devez m'avoir en visu. Dès qu'ils sont tous dehors, je lève le bras et on leur rentre dedans.
Il s'engagea à travers les arbres. Lucie fulminait et elle éprouva des difficultés à calmer sa colère envers son mari. Mais au fond, elle dut admettre qu'il avait pris la décision la plus sage. Attraper ces salopards sans dommage était la priorité absolue. Robillard alla uriner. Nicolas, planqué en première ligne auprès de son chef, alors que les autres filaient vers la gauche. Au bout d'un quart d'heure, la Mercedes était de retour. Elle se gara à la même place. Les 4 hommes sortirent en même temps. claquèrent les portières et se regroupèrent autour du coffre, surexcités à l'idée de découvrir l'issue du combat. À ce moment précis, les flics jaillirent de la végétation, par la droite comme par la gauche, avec la force d'une vague, armes braquées, en hurlant de ne pas bouger. Charcot fondit de tout son poids sur Prost et le plaqua au sol. Il ne se priva pas pour lui écraser la joue sur les graviers. L'homme hurla. Le coup de filet fut un succès. Les individus finirent menottés, assis par terre. On leur cita leurs droits. Avec prudence, Lucie s'avança vers le coffre. Il fallait ouvrir. Les deux animaux s'étaient entretués et gisaient dans un bain de sang au cœur de cet espace clos et tapissé de films plastiques. Elle eut du mal à discerner laquelle de ces pauvres bêtes respirait encore.